Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette rencontre en compagnie de Sylvie Simons qui vient nous présenter I'm Your Man, traduit par Elisabeth Domergue et Françoise Vélo, et c'est publié aux éditions L'Échappée. C'est une très grosse biographie de plus de 500 pages sur ce poète, écrivain et chanteur canadien qu'est Leonard Cohen, qui est disparu il y a à peine 2 ans, en novembre 2016, à l'âge de 82 ans. À la lecture de cette somme, nous découvrirons tout de sa vie, de son enfance bourgeoise à Montréal, de ses premiers recueils de poèmes, de ses rencontres qui ont jalonné sa carrière, des femmes nombreuses qui l'ont entouré et aimé, et qu'il a aimé en retour, de ses retraites en Grèce et dans un monastère zen, de sa spiritualité complexe, mais aussi des excès, des drogues, de sa fascination pour les armes et de nombreux épisodes dépressifs qui jalonnent sa vie. De ses 14 albums décortiqués par vos soins, Sylvie Simons, des premiers concerts à la longue tournée des années 2000 en passant par des concerts donnés dans des hôpitaux psychiatriques. Il ne sera bien évidemment pas possible de tout évoquer durant cette heure passée en votre compagnie. Donc Madame Simons nous fait le plaisir d'interpréter des chansons à la fin de cette rencontre. Il est dit d'ailleurs dans ce livre que si un biographe arrive à cerner 6 ou 7 facettes des nombreuses facettes d'un artiste, alors il aura fait du bon travail, et je peux vous assurer que le défi a été relevé dans cette biographie et avec brio. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous plonger dans ce livre de référence, en prenant le temps de le lire attentivement et tout en accompagnant sa lecture de l'écoute des nombreux albums de Leonard Cohen. Et on comprend mieux, en lisant ce livre, pourquoi lorsque Bob Dylan reçut le prix Nobel de littérature, de nombreuses voix s'étaient élevées pour dire que Cohen aurait dû le recevoir lui aussi. Ma première question, Sylvie Simons, sera assez simple. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce travail titanesque à écrire cette biographie?
Qu'est-ce que j'ai amené?
Non. What drove you? What led you to work on Cohen?
Ok. deux raisons. Une raison très grande était que il n'y avait pas beaucoup de livres bons sur Leonard Cohen. C'est impossible à penser ça, mais c'est vrai. Et j'ai fait une interview avec lui comme journaliste de musique en 2001. Et on a parlé pour 3 jours. Pardonnez-moi, mais pas 3 jours. Et après, j'ai pensé, bon, j'ai le meilleur interview du monde. Enfin, je comprends cet homme. Mais j'ai trouvé qu'il a beaucoup caché. Il a parlé very charmingly.
Et la façon qu'il avait de s'exprimer était charmante.
Oh oui. Et
il fumait.
Non, pas ça. He blew the smoke in my eyes.
Ah, il vous a envoyé de la poudre aux yeux.
Oui, et j'ai découvert qu'il faut faire plus. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. L'autre raison est que j'ai adoré sa musique depuis l'âge de 13 ans, la première fois que je l'ai entendu, écouté.
Ça représente combien d'années de travail d'écrire une somme pareille
Combien d'années
de travail?
Oui, de travail. Probablement 3 ans, parce que j'ai écrit chaque jour, ou j'ai travaillé chaque jour 7 sur 7, et de 9h du matin à minuit.
Vous avez rencontré énormément de monde pour ce travail. Est-ce que vous avez rencontré un accueil plutôt favorable à chaque fois, ou est-ce qu'il y a eu des réticences?
Au commencement, il était, je crois, un peu heureux, content que je viens, that I was going to do this, que j'ai décidé de le faire. Mais après, de temps en temps, il était un peu nerveux parce que il était un homme très privat, très, très privat. C'est comme ça, quand il fait les interviews, que ce n'est pas exactement toujours la complète vérité. C'est vrai, mais ce n'est pas la complète vérité. Je crois qu'il était un peu nerveux, mais après un peu, il a dit, oui, ça, ceci, c'est le livre. This is the book.
What else do you want me to say?
Moi, je suis en train de tuer la langue française, on le sait. So, anytime you want, please say it.
Part of his question was to ask you about all the people you had to meet.
Ah oui.
And how they react to your enterprise.
J'ai parlé avec probablement 115 personnes, toutes très proches à lui. Et il y avait beaucoup de femmes, en fait, parce qu'il est un homme aux femmes. Mais pas toutes les femmes, autrement, ça c'est un livre comme ça. Mais avec les femmes importantes, les muses importantes. Mais ils ont été très généreuses avec moi, ces femmes. Et presque tout le monde a été le même. J'ai parlé aussi avec tous ces musiciens, ces éditeurs de poésie et la famille et tout ça. Donc, pour lui, c'était un peu, pour Leonard, c'était un peu bizarre parce qu'il y a cette femme anglaise qui commence à faire une fast version of his life.
Une version rapide, en accéléré de sa vie.
Oui, c'était comme ça. Mais j'ai trouvé les gens très, très généreux parce que eux aussi, les gens qui le connaissaient, ont pensé qu'il n'y a pas beaucoup de bons livres sur lui, comme ils sont, par exemple, sur Bob Dylan. Mm-hmm.
On va passer maintenant à sa vie, à lui, et surtout à sa vie avant la musique. Parce que Leonard Cohen commence sa carrière de chanteur assez tardivement, passé 30 ans. Mais avant, il naît en 1934 à Montréal, dans une famille très bourgeoise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu justement le contexte dans lequel il grandit ?
Oui, il est né à Montréal, en Canada. Et il avait une famille qui a été très, très importante dans le monde juif. En Canada, il avait un arrière-grand-père qui a établi un grand synagogue, le plus grand synagogue à Montréal, et aussi un oncle qui était le chief rabbi du Canada.
C'est le rabbin en chef du Canada.
Merci. Et il était un peu gâté comme enfant, mais quelque chose de très important s'est passé quand il avait 9 ans, son père est mort. Mais il n'était pas triste, il a dit, parce que maintenant c'était lui qui était le seul homme du famille. Il avait une sœur, une plus older.
Plus vieille, plus âgée.
Une sœur plus âgée. Et aussi une mère qui était une grande mère juive qui suffocated and loved him.
Il étouffait un petit peu par ses attentions et son amour.
Oui, et ça a changé beaucoup pour lui. C'est pour ça qu'il a, je crois qu'il a, parce qu'il a, il a habité dans une maison de femme, ça a changé beaucoup, vous savez. Because he learned to be absolutely adored by women, and he was desperate to run away from them.
Donc, ça, le fait de grandir au milieu de toutes ces femmes, ça a complètement changé sa vie. Et donc, il a appris à être entouré de femmes, à être adoré par elles. Et il n'a eu qu'une envie, c'est de les fuir.
Qu'est-ce qui l'amène à écrire ?
What?
Let him to...
No, not let it... Write. What drove him
drove
to write?
Him to write. Je lui ai demandé ça et il n'a pas une réponse. Il a dit que c'était toujours là. Il a expliqué, je le dis en anglais, he felt always that it was important to keep a record of the thing, he said, la chose. And he described the thing as being an attempt to find his way to sanity.
Okay. Quand je lui ai posé la question, à savoir qu'est-ce qui l'avait poussé à écrire, il m'a répondu qu'il avait toujours senti que c'était là en lui et qu'il était important, il sentait que c'était, depuis le départ, que c'était important de conserver une trace de la chose et qu'il décrivait comme une tentative pour...
It was a way to try and find his way to sanity.
Oui, c'était un moyen pour lui de trouver le chemin vers la santé mentale.
Parce que when he was a teenager, presque from a teenager up to the age of 70, jusqu'à 70 ans, he suffered terribly from depression.
De l'adolescence jusqu'à ses 70 ans, il a beaucoup souffert de la dépression.
Et pour écrire et pour peut-être aider ça. Mais aussi le vin, les drogues, les femmes aussi aident avec ça.
Il écrit ses premiers recueils de poèmes assez jeune. C'est un élève brillant, que ce soit au collège et à l'université. Il va écrire un premier roman qui ne rencontre pas le succès qu'il escomptait. Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi justement de l'écriture de ce premier roman ?
Oui, il a décidé d'être poète probablement quand il avait 15 ans. Il a trouvé un livre, une collection de poésie par Federico Garcia Lorca. Et il m'a dit que quand il a lu les mots de Lorca, il a écouté dans sa tête la musique du synagogue. Il a entendu musique et il m'a dit que c'était la poésie de Lorca qui lui a donné la permission d'être poète. Et après ça, il a toujours écrit la poésie à l'école et aussi à McGill College.
Et, à l'université.
À l'université McGill. Et c'était McGill qui a publié son premier livre.
Son premier recueil.
Son premier
recueil.
Recueil. Recueil. C'est difficile de dire ça avec un visage anglais. Recueil.
C'est aussi à cette époque qu'il rencontre d'autres poètes canadiens et qu'il traîne, qu'il forme presque un groupe, en fait, avec tous ces poètes. Donc avec presque un départ de célébrité pour lui, bien avant le succès qu'il aura après avec la musique.
Yes, he was the golden boy of Canadian poetry for a while, and he had some mentors, or actually friends, not really even mentors, who were much older, including a Canadian poet called Irving Layton.
Oui, c'était le golden boy, si je puis dire, des poètes canadiens. Il était entouré de mentors, ou plutôt, je devrais dire, des amis qui étaient plus âgés que lui, comme
Irving Layton.
Voilà.
Et Irving était un vrai mec. Il était grand et il avait une voix très, très, très forte. Et il a des poèmes au sujet de sexualité et ça a changé beaucoup pour Leonard, qui était un peu timide comme jeune. En fait, il y a un film qui s'appelle Ladies and Gentlemen, Mr. Leonard Cohen, et dedans, quand Leonard est au scène et lit la poésie, il a une voix comme ça, un peu haute, mais il a changé après being friends with Irving. Ça a changé l'amitié entre les deux.
Donc à force de côtoyer Irving, il s'est un petit peu débarrassé de sa timidité et il a pu parler haut et fort.
Oui.
Il y a un voyage en Grèce qui va profondément changer sa manière de voir les choses. Dans quel contexte il quitte l'Amérique du Nord pour partir s'installer en Europe.
C'est bizarre, en fait, parce que Leonard avait une famille avec beaucoup d'argent et qui avait beaucoup de firmes. Et il a pu travailler sans travailler, en fait, chez eux, gagner beaucoup et être poète sans problème. Mais il a voulu le faire complètement seul, ou même avec beaucoup d'aide de les bourses de Canada. He had always was getting grants. Et pour une bourse, il a dit qu'il a voulu écrire un roman au sujet de tous les capitales du monde.
Ah, les capitales.
Oui, tous les capitales du monde. Et il a commencé à Londres. Et c'était hiver. Moi, je suis née à Londres. Et hiver à Londres, c'est horrible. Et il a entendu dire qu'il y a une petite île grecque avec une communauté d'artistes. Et bon, il est allé à cette communauté et il est tombé complètement amoureux. Et en fait, il parlait un peu grec. Il a appris à parler grec.
Est-ce que vous pouvez nous dire qui l'a rencontré là-bas, sur cette île grecque?
C'est qui il a rencontré? C'est une... Oh, la femme?
Oui, la femme, je crois.
Bon, la question des femmes. Pas les artistes, mais
les artistes
très
aussi.
Jolie femme qui s'appelle Marianne Ilhan. Oui, Marianne. Probablement la première muse de ses chansons. Sauf Suzanne, en fait.
Alors, il y a deux Suzanne. Hein. Il y a la Suzanne de la chanson.
Oui.
Qui a été importante pour lui.
Oui.
Et puis ensuite, il y aura Suzanne, mais bien plus tard, qui sera la mère de ses deux enfants.
When it began, au commencement, Suzanne était la muse d'un poème qui est devenu une chanson. Et elle était une danseuse, oui, une danseuse à Montréal. Et dans la chanson, il dit that he touched her perfect body with his mind parce qu'elle est mariée avec son bon ami. Mais il a essayé de faire autre chose. Bien sûr, elle a dit. Mais Suzanne était la première muse de ses chansons, comme ça. Et Suzanne, l'autre Suzanne, était la mère de ses deux enfants. Et il l'a rencontrée à a Scientologist meeting.
À une réunion de Scientologie.
Oui. C'était bizarre, mais pour une année, Leonard a étudié Scientologie. Mais c'était really, vraiment parce qu'il a pensé que ça peut aider la dépression.
Il reste un doute à la lecture de cet ouvrage. C'est la manière dont il est arrivé à la chanson. Vous donnez deux versions possibles. En tout cas, il y a deux versions qui existent de comment Leonard Cohen est passé de poète à chanteur et a décidé d'interpréter les chansons qu'il avait écrites.
So there are two alternative stories mm-hmm. that account for Leonard Cohen becoming a singer, leaving his work as a poet to embrace mm-hmm. a career as a singer.
La vraie réponse est l'argent.
Et les réponses que
parce qu'il a pu gagner assez pour lui, Marianne et son fils parce qu'elle avait un ex-mari qui était écrivain et il l'a déserté pour une autre femme. Et il a fallu gagner un peu de l'argent. Mais à la même fois, quand même qu'il soit modeste, il a voulu être populaire. Et il a pensé avec l'éditeur de ses poèmes pour dire, non, il faut changer la couverture, il faut séduire des gens avec mes œuvres. Mais il m'a dit, c'est seulement l'argent. Et il a pensé, pas d'être chanteur, mais d'être compositeur de chansons de country music. Qui sait?
Ses premières chansons, d'ailleurs, sont interprétées par des femmes. Hein. Toutes les premières chansons.
His first songs, they were interpreted by women.
Sa première chanson, oui, était Suzanne. La première Suzanne. Et oui, c'est Judy Collins qui était un big success, un grand succès.
Oui, qui avait beaucoup de succès.
Oui, avait beaucoup de succès en ce temps-là. Et c'est elle qui a acheté la chanson Suzanne et l'a chantée avant que Leonard a eu un record deal.
L'enregistre? Enregistre un disque?
Non, pas enregistré, mais il a signé avec un
record company. Ah oui, d'accord. Avant qu'il ne signe un contrat avec une maison de disques.
Oui, avant de signer un contrat, oui. Mm-hmm.
Alors, on va passer à quelque chose de très, très différent. En fait, on fait des passages un peu dans le temps ce soir dans cette rencontre. Le livre, lui, est beaucoup plus linéaire. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, et je ne pense pas être le seul à avoir été surpris à la lecture de ces différents passages, c'est la fascination pour les armes à feu et pour la guerre. Leonard Cohen, alors il y a un passage avec le revolver de l'arme de son père. Son père avait fait la guerre. Et il va se retrouver à Cuba. Et puis plus tard, il se retrouvera aussi en Israël pour la guerre de Kippour, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller dans des endroits où c'était dangereux?
Oui, I found it very strange. C'était très bizarre pour moi aussi. He's a lover, not a fighter.
C'est un amant et pas un soldat.
Mais en fait, il a voulu être soldat. When his father was still alive,
quand son père était encore en vie,
merci, il lui a demandé de l'envoyer à military academy, à l'académie militaire.
Dans une école militaire, oui.
Puis après ça, son père est mort et sa mère a dit non, pas du tout. Mais pour lui aussi, c'était Leonard était quelque chose qui a adoré toujours les uniformes. et la discipline. C'est ça, je crois. Et quand la dépression est venue, c'était très important pour lui d'avoir cette espèce de discipline. Et aussi, c'était une question. It was a question of the time as well, because he was a small Jewish guy.
Comme il était de petite taille, pour lui aussi, personnellement, aspirer à devenir soldat, à prendre les armes, c'était une manière de se rehausser, de se grandir et de jouer les durs.
Il a voulu être un soldat comme son père qui a, was in the First World War.
Oui, comme son père qui avait combattu pendant la Première Guerre mondiale.
So there was a certain machismo in there too.
Il y avait un peu de machisme de sa part.
Pourquoi partir de Cuba?
Il m'a dit que c'était a very sweet adventure for a boy.
Ah, il a déclaré à Sylvie Simmons que c'était une douce aventure pour un garçon, pour un jeune homme.
C'était très très dangereux. Il aurait pu. Parce qu'il est resté vraiment quasiment jusqu'à la fin en fait, de l'insurrection. Et en lisant ce passage, donc malgré les fusillades dans la rue, j'ai l'impression que ça résumait bien aussi beaucoup d'autres éléments de sa vie, à savoir le fait que Leonard Cohen, et c'est l'impression que j'ai lue en lisant le livre, avait toujours une distance par rapport aux événements, ou en tout cas donnait l'impression d'avoir une distance par rapport aux événements, et d'être là aussi un peu en spectateur de ce qui se passait autour de lui.
Oui, en partie, mais aussi avec Cuba, it was the natural move from his obsession with Lorca, fighting in a revolution where Spanish was spoken.
Mais pour lui, c'était dans le droit fil, dans la continuation de son obsession pour Garcia Lorca, hein, qui lui-même avait combattu pendant la guerre civile.
And there's that funny story of his mother having to save him.
Il y a cette histoire drôle aussi à propos de sa mère qui a essayé de le sauver.
Oui, effectivement, qui appelle l'ambassade pour venir le récupérer. Oui.
Yeah, come home, you naughty boy.
Reviens à la maison, toi, vilain garçon.
Embarrassing.
C'est assez gênant.
Sa mère a toujours été de bons conseils pour lui. Elle le prévient de ne pas faire, justement, de la chanson, parce qu'il finira toujours par se faire arnaquer par quelqu'un au début de sa carrière. Elle lui dit « Méfie-toi, ces gens-là ne sont pas comme nous. »
She was always good advice to him. In particular, she told him to not put his trust in shady people that could con him.
C'est probablement le seul conseil qu'il a pris de sa mère, mais trop tard. Oui, he lost the rights to the song Suzanne to an arranger. It's a long, boring music business story.
Donc il a perdu ses droits sur la chanson Susan, mais c'est une longue histoire un peu tortueuse.
Elle lui a donné un deuxième conseil, c'était de se raser à chaque fois que quelque chose n'allait
pas.
Ah
oui. Voilà, the shaving thing, that was very strange, yes. Sa mère aussi a souffert la dépression. Elle a été hospitalisée pour ça. C'était très difficile pour Leonard. Et elle lui a dit, when you're feeling bad, have a shave.
Donc c'est elle qui lui a dit que quand tu te sens mal, eh bien rase-toi.
Et donc ça arrive par moment que dans certains concerts, quand quelque chose ne va pas, ils disparaissent pendant une demi-heure.
Et c'est aussi mentionné dans la chanson Dress Rehearsal Rag, Hey Prince, you need a shave. Dans cette chanson, il pense à se suicider. Et une voix vient dans la tête qui dit Hey Prince, you need a shave.
Abrams, c'est ça? Abrams?
Prince, Hey Prince.
Hey Prince! Ta sang. Hey, mon prince, tu as besoin de te raser.
On va évoquer maintenant le côté spirituel de sa vie. Alors là aussi, c'est quelque chose d'à la fois très très curieux. Leonard Cohen grandit dans une famille juive très pratiquante. Il pratique son judaïsme toute sa vie. Et d'ailleurs, il ne comprend pas la conversion de Bob Dylan au christianisme. Et malgré tout, il est toujours en recherche d'une spiritualité autre. On l'a déjà évoqué durant la rencontre avec la scientologie. Il va s'intéresser pendant un an à la scientologie. C'est là où il va rencontrer Suzanne. Et puis, il y a une deuxième rencontre qui va marquer sa vie à jamais, celle avec Roshi, qui est un moine bouddhiste zen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il rencontre justement ce...
Comment il a rencontré Roshi? Il avait un très bon ami américain qui vivait sur l'île Ito, un autre poète. Et he was about to get married, this poet.
Donc ce poète s'apprêtait à se marier.
Et il a invité Leonard. Et le mec qui les a mariés était Roshi, un homme japonais qui ne parle pas du tout anglais, mais que 5 mots peut-être. Mais il a dit que l'alcool est horrible, mais en buvant une grande bouteille de sake, du vin japonais. Et Leonard a pensé, oui, j'aime beaucoup cet homme.
Qu'est-ce qui l'a amené justement? Alors, ils se sont liés d'amitié tous les deux, un rapport de confiance mutuelle, mais avec aussi des moments de retraite totale. C'est-à-dire que Leonard Cohen va passer 5 ans de sa vie, si je me souviens bien.
Presque 6 ans.
Presque 6 ans, à devenir moine bouddhiste et à travailler. Il dit, si je me rappelle bien, c'est un peu comme un entraînement des Marines, mais un entraînement spirituel.
C'est comme un entraînement pour les Marines.
Oh, yes, that's right. C'est vrai. You know, it was very much very military.
Et à côté de ça, il continue quand même à avoir droit à sa machine à café, à pouvoir fumer des cigarettes et à boire autant d'alcool, ce qui donne un côté un peu paradoxal justement de cette retraite spirituelle.
Mais en général, il a vu la vie spirituelle. Et moi aussi, je suis allée au monastère pour voir comment. C'était horrible, c'était comme l'enfer. J'ai échappé avec une cuillère pour faire un petit trou, to run away in the tunnel.
Oui, avec un confort plus ou moins spartiate quand même, même pour lui.
J'ai pas compris.
There was not a lot of comfort there. I mean,
non,
it was not very cozy.
Non, c'était
place.
Pas du luxe, c'était pas zen spa. Non.
Cette recherche spirituelle, elle était faite pour, en tout cas, accéder à une espèce de guérison de sa dépression qui a duré près de 70 ans. Et paradoxalement, c'est pas auprès de Roshi qu'il a trouvé la solution, mais lors d'une retraite en Inde.
Oui. C'est intéressant que quand j'ai fait l'interview avec Leonard en 2001, c'était après qu'il est descendu de la montagne pour faire un nouvel disque, 10 New Songs. Et j'ai dit, est-ce que vous avez quitté le monastère parce que vous êtes guéri de dépression? Et il n'a pas exactement dit oui, mais pas non à la même fois. Et j'ai pensé, ah, c'est pour ça qu'il est descendu. Mais non. Et dans les interviews pour le livre, je lui ai demandé, bon, quand tu as quitté le monastère, es-tu guéri de dépression? Et toujours avec Leonard, quand on parle avec lui, il y a des très longs silences. Long silences? Comme ça. Et après quelques minutes, il looks you in the eye.
Il m'a regardé dans les yeux.
Il m'a dit, I was too fucking depressed to stay another minute.
J'étais trop déprimée pour rester une minute de plus.
Mais plus fort que ça.
Oui.
Avec un rude word. Et j'ai dit, mais je suppose que tu es allée somewhere else.
Mais j'imagine que tu es allée ailleurs.
Et il avait la lumière dans les yeux, un petit sourire, et il a dit, ah, tu vas découvrir.
À toi le dire.
Et je l'ai fait. Il est allé à Bombay, in India.
Il est allé à Bombay, en Inde.
Pour faire des études avec un professeur, un gourou de Vedanta. Ça, c'est hindouisme. Et il m'a dit que c'est lui qui a guéri la dépression. Mais ce gourou a dit, mais vous avez déjà fait beaucoup avec Roshi pour 30 ans. Les deux ensemble, l'ont guéri.
L'ont guéri,
merci.
À peu près au moment où il guérit de sa dépression, arrive un énorme problème financier pour lui. Son ancienne manager, alors on ne pourra pas rentrer dans les détails parce qu'effectivement c'est très très long, mais il se fait spoiler de 10 à 13 millions de dollars. Mm-hmm. Au même moment, un producteur lui propose d'organiser une tournée avec des musiciens qui vont reprendre des chansons. Et c'est à ce moment-là où il va entamer lui-même, en fait, une très très longue tournée qui va durer 5 ans.
Incroyable.
Et finalement, de ce que vous dites dans le livre, si la vie de Leonard Cohen était la Bible, la trahison qu'il a subie de la part de son ancien manager serait effectivement Judas. Mm-hmm. Et ce qui transformerait en fait Leonard Cohen en Christ.
Et c'est vrai.
On a du mal à imaginer un monsieur aussi âgé reprendre une tournée incroyable dans plusieurs dates dans le monde entier et être peut-être même plus performant que quand il était plus jeune. Qu'est-ce qui avait changé dans ce moment-là, dans sa tête à ce moment-là?
Il n'a pas voulu faire la tournée. Il était un peu désespéré. Et chaque jour, il a dit à ses musiciens au commencement, « J'ai changé mon avis, je ne veux pas le faire. Ok, peut-être je le fais. » Toutes les choses comme ça, mais parce qu'il y avait 15 ans qui est passé since his last tour. Mm.
15 ans s'étaient passés depuis sa dernière tournée, donc il était très hésitant à reprendre la route.
Donc il a pensé, I have to do it, I have no choice.
Il n'avait aucun choix, c'est ce qu'il a pensé, il fallait qu'il le fasse.
Mais après, probablement 4 concerts, ça a commencé à changer. Il a absolument adoré être au scène, il était très heureux de travailler comme ça. Après des années de rien faire. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est la question si je n'ai pas répondu?
Non, c'est justement sur cette tournée.
Mais aussi, oui, avant, la chose avec Leonard était il avait toujours un problème avec show business.
Mm. Le show business.
Avec show business. Et il a pensé quand il est au scène et quelqu'un dans le public dit « Sing so long, Marianne ». Pour lui, il a dit « C'était comme si je prostitue mes chansons ».
En fait, il a toujours eu un problème avec le show business et en particulier quand quelqu'un dans la salle réclamait la chanson « Marianne », etc. Il avait le sentiment de devoir se prostituer.
Oui, c'est ça. Et aussi, quand j'ai dit, quand il avait
77
ans, il a plus de dépression. Et il a bu beaucoup, il a pris beaucoup de drogue pour faire une tournée. Maintenant, il était sobre et heureux, sauf avoir perdu l'argent. Mais il a gagné beaucoup plus qu'il a perdu.
Ouais. Et c'est aussi le moment où il rencontre un succès phénoménal aux États-Unis, qui était presque le seul pays du monde qui n'acceptait pas, enfin sur lequel il n'avait pas autant de succès.
American Not, les deux. Oui, c'était bon pour lui après longtemps. Et c'est très rare dans les histoires de rock people in rock music, and it's like wow.
C'est rare chez les rockers, justement, d'avoir autant de succès vers la fin de leur vie.
Oui, parce qu'une biographie d'un rockstar en général, il y a des années très bonnes au commencement, mais ça commence à descendre. And there's an unhappy ending. Mais avec Leonard, c'était énormément bon de finir comme ça, at the top of his game.
Oui, de finir au meilleur de sa forme. Mm-hmm.
Vous achevez la rédaction, enfin la publication en tout cas de l'ouvrage en anglais, c'est 2012. Donc Leonard Cohen est toujours vivant à ce moment-là. Qu'est-ce que ça fait d'écrire la biographie d'un artiste comme ça, sans arriver exactement jusqu'au bout?
What does it do to write a biography on someone who's still alive and not being able to put, you know,
have an end to it.
Yeah, a final stop.
What is it like? It really should be illegal. It's like stalking somebody.
Ça devrait être déclaré illégal. C'est comme suivre quelqu'un, le harceler.
Oui, oui. C'est bizarre, en fait. Et Leonard m'a dit, je suis très désolée que je ne suis pas mort à la fin du tournée parce que ça finit le livre très bien. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? He was very funny about that.
Oui. Il était très drôle là-dessus. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire, la dernière histoire en fait que vous évoquez dans le livre, sur son carnet, quand vous lui dites quels sont les derniers mots? Pour conclure mon histoire, j'ai besoin de tes derniers mots.
Oh bon. J'essaie à faire une moyenne de finir un livre sur quelqu'un qui n'a pas fini la vie. Et j'étais dans sa petite cuisine, dans une très petite maison. Et il était en train de me nourrir ou quelque chose. He's like a Jewish mother. He, you know.
C'est une vraie mère juive.
Et pour me donner quelque chose à manger. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, je ne sais pas. Et je dis, est-ce que tu as déjà un carnet dans la poche? Parce que depuis l'âge de 9 ou 10 ans, il a toujours gardé avoir un petit carnet pour écrire. Souvent, il les a perdu, mais il a toujours écrit. Et il dit oui, et un peu nerveux, il a un peu inquiet, il a retiré le carnet, il a l'ouvert. Et j'ai dit, il faut qu'on utilise la dernière chose que tu as écrit dedans. Et il a dit, ses yeux changent un peu. Il a lu pour lui-même et il a went back a few pages.
Donc il est revenu un peu en arrière.
I said, you're cheating.
Je lui ai dit, tu triches.
He said, yes.
Oui.
Et il a arrêté et il a commencé à lire quelque chose. Il a écrit sur un rêve. Il a sur la tournée.
Un récit de rêve.
Oui. C'est une bizarre histoire. In the dream, Leonard said, I was in the women's bathroom.
Dans mon rêve, j'étais dans les toilettes pour femmes.
And I knew I wasn't meant to be there.
Et je savais que je n'avais pas ma place dans cet endroit.
But I thought maybe it's okay.
Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être acceptable.
And then there was a woman in one end who was lying on a psychiatrist's couch talking to her therapist.
Et puis il y avait cette femme qui était allongée sur un divan à l'autre bout de la pièce en train de parler à son psychanalyste ou son psychiatre.
And she said, Leonard Cohen is watching us.
Et elle lui disait, Leonard Cohen est en train de nous observer.
So he went to a bed at the other end of the room.
Alors il est allé s'allonger sur un lit à l'autre bout de la pièce.
And pretended to be asleep.
Et a fait semblant de dormir.
And then woke up in his hotel room in Canada.
Et il se réveillait dans sa chambre d'hôtel au Canada.
Mais quand il parle cette bizarre rêve, c'était comme si Moses est là avec les.
C'était comme si Moïse était
avec
là.
Les dites
avec les tables de la loi.
Avec cette voix. Cette chanson, c'était une de mes favorites. C'est une chanson que Leonard a écrite quand il habitait à New York, dans le Chelsea Hotel, et qu'il a enregistré quand il habitait à Tennessee, près de Nashville. Il a enregistré la chanson en Nashville. Et c'est une chanson que j'adore, mais les mots sont un petit peu bizarres parce que c'est un triangle amoureux. Oui, un triangle amoureux. Mais c'est lui qui a le problème avec la femme. Et dans sa vie, c'était probablement pas la vérité. Et j'ai demandé pourquoi est-ce que ça se passe dans la chanson. Il a dit qu'il a toujours pensé qu'il y avait quelqu'un qui va voler sa femme. Je ne sais pas. Et j'ai dit, j'adore cette chanson. Il a dit, moi non. Parce qu'il a dit, je crois que ce n'est pas fini. Mais il a dit, ma mère adorait cette chanson. Et moi aussi, je ne suis pas sa mère, mais je suis d'accord avec la mère. kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her the night that you planned to go clear. Chanson bien connue de Leonard A. Bird on the Wire. Et Marianne Ilhan m'a dit que pour elle, ça, c'est la chanson à elle, that's her song, et pas So Long Marianne. Elle m'a dit qu'il est rentré à Hydra, leur petite maison blanche en l'île d'Hydra, et c'était après une très longue tournée, il n'a pas été heureux. Et quand il est assis à sa table pour écrire, par la fenêtre, il a vu qu'il y avait un fil d'électricité avec un tout petit oiseau sur ça. Et il était complètement en colère parce qu'il a adoré sa maison parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Les nuits, ils ont des bougies et il n'y avait pas aussi de eau. il y a des qu'est-ce que c'est le mot? C'est pas un it's a, in English it's a donkey. Anne, merci. C'est un âne qui vient avec beaucoup d'eau. Bon, c'était pauvre, le pauvre âne avec ses collines. Mais il a vu ce fil et il était en clair. Et Marianne lui a donné sa guitare et il a écrit Bird on Wire. Like bird on the wire. Like chuck in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Oh, like a worm on a hook, like a knife from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. Like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. Oh, but I swear by the sun and by all. Said to me, you mustn't ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for more? Merci. Il y a une grande horloge ici et je vois qu'il n'y a que 4 minutes. Mais I will do this song only if you sing with me. Il faut que tout le monde chante, s'il vous plaît. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. And dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they did in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
So now it's your turn.
La 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 la. Both of us beneath our love, and both of us above. Dance me till the end of love. Oh, dance me till the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love. La la. Touch me with your naked hand, or touch me with your glove, but dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Merci beaucoup pour venir ce soir.